smart. They pick up on everything, even as young as 1 and 2 years old. They pick up on everything that you do, you say, your emotional energy, and so it shifts the way that you want to orient yourself. And I'm often in groups where younger people are talking about having children, and they're like, yeah, I'm going to beat my kids. And I'm just like, well, do you know difference between discipline and abuse?
Right.
Do you understand?
And it's definitely not something that you need to be super excited about.
Yeah.
You know, in that regard, you know, I would often ask myself, you know, you hear as a child, oh, this is going to hurt me more than it's going to hurt you. And there were plenty of times where I wanted to say, well, give me the belt. Let's test this theory out. give me the belt, you know. Let's go ahead and see if this is going to hurt you more than it's going to hurt me. And, you know, again, you know, confront not only confronting that, I think what was even more powerful with those experiences is not just having children, but talking to other men that have been through it as well.
Yeah.
So where do you go from there? So you have a child and you realize that you have this trauma. What do you do to get over that and to encourage them to be better and to do better and to not repeat the past?
You talking about the parent or you yourself?
The parent, or anybody out there who has any sort of experience of trauma. Uh-huh. You know, how did you manage to overcome, and what did you do? Like, was it therapy? Was it talking? What was it?
I think the first step is identification. Mm-hmm. They say knowing is half the battle, and it's one of the most powerful self-reflections. I think one of the
Thank you.
We are back. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM. My name is Kim Dominique Ferguson. I'm in studios with
Renee Jordan.
And all the way from Hawaii joining us, we have Anthony Highland, a man who strives for greatness by telling his story through poetry, does motivational speaking, he educates young minds, and the list goes on.
Anthony, absolutely.
So before the break, we were talking a little bit about, going through abuse and also how to pick yourself up out of this. And COVID-19 has kind of created a situation where a lot of people are going through mental health issues. It has been exacerbated. The quarantine has exacerbated certain people's situations. Some people it's given them space to breathe. How would you suggest that people motivate themselves, or how do you motivate yourself in this kind of situation, knowing that there's a lot of people that may need that extra oomph, so to speak?
I think I meditate now more than I've ever meditated before. Self-reflecting and just sitting down and just being still. I think we do so much moving on such a consistent basis that we forget to just be still, to be present in the moment. One thing that I realized with, my social media and empowering others, that it can become very draining, especially when you're so used to just pouring into people, that we forget about self. Self-care, getting a haircut, getting your hair done, getting your feet done, taking a bath, literally just enjoying being comfortable in your own skin. And I think with us being locked in and quarantined and things of that nature, some people are spending more time with family members than they've ever spent before. I know for myself, being in the military, being on a ship and then coming all the way to Hawaii and being on, what's called shore duty, I'm spending a lot more time with my family, a lot more time with my kids, a lot more time with my wife, to whereby I don't have to go out to sea, or I don't have to go to work at, 4 a.m. and get off at 10 at night, and then have to get up and do it all over again, to whereby, I leave, my children asleep, get off work, my children asleep again. Yeah. I would say the main thing is take care of self. Take care of self and understand that it's okay to be selfish and taking care of self. And in that regard, most oftentimes it comes from people who are so used to pouring into other people's lives. Now, the other side to that also is do something kind for someone. See someone in need, if there's somewhere you can volunteer, or, of course, adhere to, guidance and mandates and things of that nature. But if there's some way that you can give back, for me, my giving back has been helping single mothers, or, helping members of the LGBTQIA+ community into transitional homes by getting them resources. Domestic violence is something that I'm a huge advocate for, pushing individuals who might have been through a situation toward resources. I think we do so much give, and we're giving away so much of ourselves that we forget to reserve. We forget to reserve some of that energy for ourselves. Yeah. We forget to reflect on our own experiences and be present in the now. One of the things that I told my wife as I continued to grow my social media platforms is that I didn't want to become what I call a YouTube family. Right. And she's like, well, why not? I think it would be really cool if, we hopped over on YouTube and did content. I said, because from what I've seen, social media can do one of two things. Either it can make you or it can break you.
Yeah.
And in terms of your mental health, especially considering the pandemic, a lot of us have turned to social media, to whereby once the pandemic is lifted, there are people who are still going to be on social media that have allowed themselves and have built massive platforms, to whereby now, utilizing that, what I don't want to do is every moment that my children have or that my wife has, I'm pulling out a camera trying to record. Oh, this will make for great content for the YouTube channel. If I'm at, a soccer game or a basketball game or a chess tournament or a debate, with my son or with my daughter.
You're living through the machine instead of living in the moment. You don't want to do that.
Exactly.
Yeah.
So you're focused on content creation instead of being present in the moment.
Yeah.
You know, when I go to sporting events, the amount of people that have their phones out recording, in my mind, I'm thinking, you're paying all of this money. Don't get me wrong. It's nothing wrong with recording. But to spend your entire experience recording and not taking in the atmosphere, taking in the atmosphere of those around you, you know, taking in the atmosphere of the field, something as small as the smell of the grass.
Yeah.
You know, being fully present in the moment. That sometimes we
holding
we
your lose popcorn sight. And having that hot dog instead of looking at small screen while you have the full view in front of you.
Oh, indeed, indeed. And again, full heavy proponent or advocate for understanding and appreciating the small things. Mm-hmm. Something as simple as walking out of your front door because you've been inside all day and just breathing fresh air.
Yeah.
Walking on the grass and just being one with the universe. To some people, it's like, oh my gosh, that sounds so crazy. It is one of the most liberating feelings one could ever have. You know, the beach, the beautiful part about Hawaii is that it's beaches everywhere, you know, and literally 5-minute walk from my house, I'm right on the beach, you know, and I'm blessed in that regard to where I can literally just walk out and just listen to the waves crashing. And, you know, I love jazz music. So I'll listen to saxophone. I like the saxophone. So I'll listen to saxophone instrumentals and just literally just allow myself to just free flow through thought, you know, to not think about being a father, being a husband, being a service member, being a motivational speaker. Well, I consider myself an empowerment speaker, but being an artist, you know, being this social media guy, just being me, being Anthony. You know, and we get caught up in our titles. For those of you that have jobs where you have a specific title, whether you're a doctor, whether you're manager, whether you're superintendent of, just strip all of that away and just understand and appreciate me. Mm. Just be one with me. No worry, no care. And say, you know what? I'm going to take a certain amount of time. I tell my wife this too. We have to specifically block out a certain amount of time. My former pastor used to say, stay on your twos. And it would essentially be like a 2-minute prayer somewhere throughout the day. For me, I say the serenity prayer. Lord, help me, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference. Mm-hmm. So whenever I see myself graduating to a higher level of frustration, I'll repeatedly say that prayer to myself to calm my spirit. And it's almost the same as my meditations. Literally just being one with myself to say, you know what, honey, I just need 5 minutes, you know, or my wife being a single mother, me having all of this time. I'm sorry. Not just, I said a single mother, stay at home, mom. Yeah, that was weird. I was like, my wife being a single mother. Wait a minute. That don't sound right. A stay at home mother, even just saying, you know what, give me the kids. When I come home, I'm gonna take my newborn. I'm gonna take my other two. We're gonna come to the man cave, which is my garage, and you know, just allow her to be in the house and just walk through the house without hearing "mommy, mommy, mommy, mommy." You know, to do the simple things like drink a glass of water without someone "mommy, mommy, mommy, mommy." You know, so whereby she can revitalize and re-energize herself because mm-hmm. she knows that once I go to work, we don't have any help. You know what I mean? It's just her and the kids. Yeah. You know, so when I come home, I do my part. So for those of you that have spouses, for those of you that have children, for those of you that are co-parenting, you know, take that burden off of your mate. You know, take that burden off of your spouse. More specifically, men, I'm stepping on y'all toes right now. You know mm-hmm. what I'm saying? Take them children. I do. Well, before the pandemic, when I was over in my other duty station in Virginia, I used to do what I call Fatherhood Fridays, where I would literally just go on Google Maps. I would literally just flip the map down, stop it on a specific point. Well, me and the kids taking a road trip. All right, honey, you do your thing in the house. You know, we're taking a road trip, or, you know, I'm going to go take them to go get something to eat, or I'm going to take them to the playground or something like that, and literally just give her a few hours to herself.
Yeah.
You know, young ladies, oh, y'all not safe either. And even to my older, more seasoned women, y'all not safe either. I'm about to step on y'all toes too. Let that man see them cheering, you know, and let him take the cheering. You know, so you can get that time to yourself. You know, you ain't got to be up under them all the time. Mm-hmm. You know, take that time for you. And most oftentimes it's easy for us as men to say that because, you know, they, you know, put it, oh, you know, mama's baby, daddy's baby. No, absolutely not. It's both y'all kid. Mm-hmm. You know what I mean? You should share that, you know, Take care of them. The children are what matter. For those of you that are co-parenting, get on the same page, mm-hmm. you know, so that those children are not suffering as a result of whatever the relationship was, you know, in that regard. And for those of you that don't have children, for those of you that may be, like you said, that get granted those nieces and nephews, ensure that you're pouring into them, yeah. you know, ensure that you're encouraging them and motivating them to go to the next level, whether that be education, whether that be sports or whatever the case may be. And if you have none of those proponents whatsoever, you just say, you know what, I'm just out here doing me. I'm just living my blessed life. Well, you understand that it's okay for you to live your blessed life. It's okay for you to do you. And, you know, understand that there's nothing wrong with that.
Yeah.
And, you know, seek that self-care and motivate and encourage and make sure you're making those self-reflections.
Yeah. We are coming down to the end of the evening. Please let people know you have an album, you have a book, and you have your social media platform. Let people know where to get them, how to get in touch with you, what is up.
Absolutely. Well, first and foremost, I want to thank you all for this opportunity. My book is entitled The Purpose of Power. It's available on Amazon. My album, a little bit about my book, just a little snapshot. It's an autobiographical sketch of my life. I feel like I have not lived long enough to write an autobiography, so I wrote an autobiographical sketch. And most people, oh my gosh, what is that? I took specific experiences that I had throughout my life, and I talked about them, then I talked about the lesson that I learned as a result of that to understand and uncover the purpose of my own power. My album is entitled Metaphorically Speaking, and it's a play off the metaphor of metaphorically speaking, essentially in terms of, you know, making a statement, but also my spoken word, metaphorically speaking. And that's available on all streaming platforms, Apple Music, Spotify, Tidal, Google, YouTube Music, Amazon, all of those streaming platforms. My social medias, you can find me on Instagram, Anthony I. Hyland, that's H-Y-L-A-N-D. You can find me on Twitter, same handle, Anthony I. Hyland, and then my biggest platform, which is my TikTok, I Speak 1906. I want to thank you all for tuning in. Thank you all for having me and listening to little old me. And just make sure y'all are taking care of yourselves.
Thank you so much, Anthony Hyland. It's been a pleasure to have you here. We are out of time for the evening. My name is Kim Dominique Ferguson. I've been in studios with
Renee Jordan.
And tune in again next week, Tuesday evening from 7 to 8:30 p.m. We'll have another guest to speak with you about what's going on with them. Keep it locked. You are listening to CKUT 90.3 FM.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. Saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world.
La pandémie de COVID-19 est une situation sérieuse. Il faut continuer d'appliquer toutes les mesures de santé publique. Suivez les consignes locales sur les rassemblements, pratiquez la distanciation physique, lavez vos mains, portez un masque et téléchargez l'appli Alerte COVID. Si vous avez des symptômes, même légers, restez à la maison. Protégeons-nous les uns les autres. Détails au canada.ca/le coronavirus ou au 1-833-784-4397. Un message du gouvernement du Canada.
Tandis que nous poursuivons la lutte contre la propagation de la COVID-19, de nouveaux programmes de soutien sont en place pour les personnes qui en ont besoin, notamment un régime d'assurance-emploi plus fort et plus accessible, ainsi que 3 nouvelles prestations de relance économique. Continuer à soutenir les Canadiens maintenant nous aidera à assurer notre sécurité et à rendre le Canada plus résilient. Consultez canada.ca/le-coronavirus pour en savoir plus sur les nouveaux programmes de soutien aux revenus. Un message du gouvernement du Canada.
Everybody listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Marcaro, l'émission de langue roumaine. Aujourd'hui, on n'a pas une émission en roumain, on a une émission en français 100%, à moins que notre invité veuille essayer un peu.
j'aurais trop peur de massacrer la très belle langue roumaine.
Catherine Pogonat, bienvenue à Marcaro. Merci pour ton temps. T'es vraiment occupé avec tes émissions et tout ça, mais tu as quand même trouvé le temps de nous parler.
Ça me fait un grand plaisir.
Je vais passer à la première question. Tu fais de la radio, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai vu j'ai lu un peu sur Internet depuis plus que 15 ans.
Oui.
Pourquoi as-tu choisi, je pense que c'est une question qui vient comme ça, là, qui a été posée plusieurs fois peut-être. Pourquoi as-tu choisi une carrière en journalisme?
J'étais pas certaine de ce que je voulais faire. Je savais que je voulais faire un métier de parole. Ça, je le savais. Mais j'hésitais entre devenir comédienne et justement animatrice. Et c'est la première fois, en fait, que j'ai fait de la radio. C'était à la radio de l'Université de Moncton, où j'étais allée étudier au Nouveau-Brunswick. Et dès la première émission de nuit que j'ai animée, c'était de minuit à 2h du matin, une émission de musique alternative, j'ai tellement aimé ça que c'est devenu évident, je pense, à ce moment-là, que c'est ce que j'allais faire dans la vie.
Avec la musique ou bien tu as choisi la musique parce que tu aimais ça ou bien c'est parce
que... Oui, j'ai choisi la musique parce que c'était ma grande passion. Je ne savais pas après si je pourrais faire carrière en journalisme musical. Déjà que c'est pas facile de devenir journaliste. Là, je me disais, si en plus, je me mets la barrière de faire du journalisme musical. Mais oui, finalement, c'est tellement ce que j'aime que ça a tracé ma carrière. J'ai travaillé en musique ou en culture depuis le début.
Est-ce que toi, tu joues de la musique personnellement?
Un tout petit peu. Je joue un peu de piano, mais pas très bien. Mais j'écoute de la musique de façon compulsive.
Ben oui, c'est ton émission en fait. Ton nom de famille n'est pas très commun au Québec, au Canada. Non. Est-ce que ça a été difficile, plus difficile pour toi d'y arriver, d'avoir une émission, travailler dans le domaine? Parce que je connais pas mal de gens qui surtout des immigrants là, qui ont du mal à intégrer ce marché-là.
Moi, je dirais que mon nom m'a plutôt servi parce que Pogonat, en plus, Pogonat, ça a une sonorité, on ne sait pas trop d'où ça vient. On n'arrive pas à placer le pays nécessairement. On sait que ça ne vient pas d'ici, mais on ne sait pas trop de où. Donc, il y avait quelque chose de mystérieux, je crois, qui m'a peut-être aidé. Les gens se massacraient mon nom parfois, mais se souvenaient du Pogo. Le pogo, ça marquait beaucoup les esprits. Donc, est-ce que c'est pogona, est-ce que c'est pogonate, pogonas? J'ai tout entendu, mais le pogo marquait beaucoup. Donc, à la limite, c'est presque devenu comme un nom d'artiste. Hein.
Pour les Roumains, le nom pogonate a quand même une signification assez connue, là. Est-ce que tu peux raconter un peu ton histoire roumaine, si on veut?
Avec Margareta Pogonat?
Oui, exactement.
Oui. Ben c'est que moi, en fait, c'est dans ma famille en plus. Margareta Pogonat est une petite cousine de mon père. Donc, oui, je sais, j'ai la chance, je ne l'ai jamais rencontrée, mais j'ai la chance d'avoir dans ma famille la Catherine Deneuve de Roumanie. Et mon père était comédien aussi. Mon père a été comédien en Roumanie longtemps et quand il est arrivé ici, il s'est mis à enseigner le théâtre. Ben, il a essayé d'être comédien, mais de la même façon qu'on disait tout à l'heure que c'est pas toujours évident quand on est immigrant de se faire une place dans un milieu comme le journalisme ou comme le théâtre. Quand il est débarqué dans les années 70 à Montréal avec son gros accent roumain, et il n'a pas trouvé de travail comme comédien, mais il a trouvé du travail comme professeur de théâtre. Donc, il a travaillé à l'École nationale de théâtre un peu, mais surtout à l'Université de Moncton au programme d'art dramatique. Ouais.
Je ne sais pas si tu connais Septimus Sever, un comédien d'origine roumaine qui a eu un théâtre. Bon, il est décédé là, ça fait quelques années. Il y en a pas beaucoup qui ont réussi de percer là-dedans là.
Non. Particulièrement, bon, je pense que ça va être de plus en plus facile, mais particulièrement dans les années 70, ou c'est ça, il y a quelques dizaines d'années, c'était extrêmement difficile, voire impossible. Ouais.
Tu penses que maintenant c'est plus facile qu'avant?
Je dis pas que c'est plus facile, mais je crois, ou j'ose espérer en tout cas, que c'est. On va entendre de plus en plus d'accents et que ce sera plus un problème.
Tu penses que c'est plus difficile au Québec qu'en New Brunswick, par exemple?
C'est que le milieu est très différent au Nouveau-Brunswick. C'est que déjà, la population francophone est une minorité. Donc, ça crée une autre dynamique. Comme les francophones sont minoritaires, ils ont peut-être un autre rapport aussi aux différentes communautés qui arrivent. Ça, c'est vrai qu'il y a peut-être un rapport différent.
Vara nu dor, ei, decât dacă când ai somn fere. Și cum nu iau pastile, camareră, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui, că mi-a fost dor de el. Și el bea în cinstea mea, fiindcă o arde la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna. Mudrei ședința la Constanța, în sfârșit a venit vara. Dimineață mahmureală, de cu sana, o plecana. Că un weekend la mamaie, e cât un sezon la Varna. Frații mei, Moldova, Ardeal sau București, cu bani puțin sau mulți, cu toți o arde în Costinești. Paharul sus ne-a, că mie-mi place să dor. Aha, nu de altceva, dar eu vara nu, eu vara nu dor, vara nu dor. Nu v-am so, nu v-am so. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plimb. Pentru că vara nu dor, eu vara nu dor, vara nu dor. Nu v-am so, nu v-am so. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plimb. Pentru că vara nu dor, eu vara nu dor. Și nu am nicio vină, că vara ochii mei sunt sensibili la lumină. Sensibil văd pe nașul cum pariu că se combină. Domnul controlor și-a dat cid-o savarină. Ah, că mă îndrept către mare, cu șapca întors în cap și cu Adidas și-n picioare. În bagaj am două oțoale lângă banii de casare. N-am nevoie de o busolă, că mă las ghidat de soare. Și jur că m-aș băga la somn,
Să-mi rulez filmul pe șeslong. Dar spune-mi cum ai vrea să dorm când am în spate o gașcă întreagă care strigă rapping on! De vară nu dorm, nu am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă prind, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu am somn, nu am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm.
Bon, je vais te poser une question qui n'a rien à voir avec la musique, mais plutôt avec le journalisme. En tant que journaliste, comment tu t'expliques la quantité de nouvelles contradictoires par rapport à la crise de la COVID? Parce qu'on lit quelque chose le matin, oui. le soir, on lit le contraire.
Le contraire.
Oui.
Et parfois dans la même heure.
Oui.
Oui. J'ai l'impression, mais là, c'est dans un moment comme ça où il y a une couverture journalistique omniprésente. C'est un sujet dont tout le monde parle. Tous les médias, mais tout le monde aussi dans la vie de tous les jours. Quand on parle autant d'un sujet, j'ai l'impression que ça crée forcément des dérapages constants. C'est-à-dire qu'on vérifie moins les informations. Les informations changent aussi assez rapidement. Mais en plus, je pense qu'il y a peut-être moins de... Pas moins de rigueur, mais la quantité de sources dilue l'information.
Et comment faire la part des choses? En tant que journaliste, mais aussi en tant que lecteur.
Oui, oui. Et surtout, je pense dans ce cas-là, très précisément, comme en plus c'est un domaine flou avec un nouveau virus, je crois que même dans le corps médical, on entend tout et son contraire.
Ça, c'est le pire, je pense. Hein?
Oui.
C'est pas évident de trouver la bonne source.
Non.
Mais que signifie la liberté de la presse pour toi?
Je m'y suis beaucoup intéressée. La première fois que je suis allée en Roumanie adulte, c'était pour faire un reportage sur la liberté de presse 10 ans après la chute du communisme. Et je m'intéressais à justement c'était quoi la situation, quelle liberté avaient les journalistes en Roumanie à cette époque-là. Ça a été super intéressant. J'ai rencontré vraiment toutes sortes de monde. Et c'était pas évident. Je sais pas quelle est la situation en ce moment. Mais 10 ans après la chute du communisme, il y avait justement beaucoup de journalisme sauvage. Il y avait aussi... Encore, je pense, un certain contrôle ou désir de contrôle de l'information. Donc, ceux qui étaient plus dissidents, parfois se faisaient un peu taper sur les doigts. J'ai connu des journalistes qui avaient vraiment à se battre, en tout cas pour justement une information libre et qui avaient l'impression de continuer à se battre en 99. La liberté de la presse, c'est un des fondements de la démocratie. On ne dit pas que les journalistes sont les chiens de garde de la démocratie pour rien, c'est que c'est vrai que les journalistes dérangent, que les journalistes posent des questions. Donald Trump, par exemple, lançait quelque chose, il déteste les journalistes, c'est pas pour rien. Quand on veut contrôler l'information, on n'aime pas que les journalistes posent trop de questions et enquêtent trop. Donc, la liberté de la presse fait partie des fondements de la liberté. Point.
Est-ce que on est la presse est libre? Parce que je vois ici il y a eu un classement, la World Press, un classement là. Le Canada occupe la 16e place.
Mm-hmm.
Je pense que ça a baissé un peu si je me trompe pas là.
Oui.
Est-ce qu'on est libre au Canada de dire ce qu'on veut?
En partie, oui. Je pense qu'on l'est beaucoup plus que dans beaucoup de pays. Mais non, à certains égards, non. Ne serait-ce que, puis des fois, c'est pas politique, hein, c'est purement économique. Beaucoup de, il y a des journaux ou des télévisions qui, pour des raisons financières, pour faire plus d'argent, vont contrôler d'une certaine façon l'information, oui.
Est-ce que tu as beaucoup d'amis roumains à Montréal?
Non, j'en ai pas assez. J'ai ma cousine, Simona Fogonat, qui est à Montréal. Mais non, j'ai des amis roumains en Roumanie. J'ai plus d'amis roumains en Roumanie avec lesquels je corresponds encore, que j'ai rencontrés justement quand je suis allée faire mon reportage en 1999 et que j'ai revu par la suite. Mais non, je devrais... J'ai pas assez d'occasion, je trouve, de rencontrer des Roumains à Montréal.
Il y a une grosse communauté, hein,
oui. Roumaine ici. Mais donc, quand j'en croise, par contre, c'est vrai que toujours on se parle. Les Roumains viennent me voir systématiquement quand on se croise, quand ils me reconnaissent, bien sûr, pour discuter parce que ça fait plaisir aussi, je pense, de croiser les Roumains, de reconnaître sa roumanitude.
Toi, tu te considères roumaine, québécoise, canadienne, c'est quoi ton, ou bien une combinaison?
Je me considère comme roumaine québécoise, oui, les deux. Je dis toujours que la Roumanie, c'est mon demi-pays parce que ma mère est québécoise et mon père roumain, donc j'ai moitié-moitié, je suis 50-50. Mais oui, la Roumanie, c'est une part importante de ma vie pour plusieurs raisons aussi parce que, bien sûr, mon père incarnait la Roumanie, mais mon père ne m'en parlait pas tant que ça. Il était, pour des raisons, je pense, qui lui appartiennent vraiment. Je pense que quand il est arrivé ici, il a eu besoin, pour des raisons de bonheur et de santé mentale, il a eu besoin de faire une certaine coupure pour ne pas vivre dans la nostalgie ou la tristesse, pour pas entretenir les blessures, disons. Donc, il m'en a parlé, mais peu. Et il m'a peu appris le roumain, il m'a appris à compter puis à dire bonjour, mais je n'ai pas appris le roumain quand j'étais petite, d'où le fait que je ne donne pas cette entrevue en roumain. Mais moi, par exemple, arrivée jeune adulte, je suis partie dans une grande quête de la Roumanie. J'y suis allée à plusieurs reprises, j'ai pris des cours de roumain. Malheureusement, je ne le pratique pas assez, donc il est pas parfait. Mais pour moi, ça a été vraiment une révélation. Quand je suis allée, j'étais allée petite, mais quand je suis allée en Roumanie adulte, c'est que j'ai découvert des facettes de moi. J'avais aucune idée qui était roumaine. Je me suis reconnue en Roumanie et je m'attendais pas à ça. Comme je n'avais pas grandi en Roumanie, comme c'est un pays que je connaissais peu, je m'attendais pas à me reconnaître comme ça.
Donc, la partie roumaine est bien cachée en toi, malgré tout.
Oui, oui, oui.
Est-ce que c'est quoi? Tu te souviens de quelque chose quand tu étais petite, là, de quelque chose de vraiment roumain qu'on t'avait montré ou on t'avait dit?
Oh, plusieurs choses. Bon, c'est des petites choses quand t'es enfant. Je me rappelle que... Bon, tous les symboles religieux. Déjà, ma grand-mère m'envoyait des symboles religieux par la poste, tout ça. Ça m'a marqué beaucoup. Les chansons, les berceuses en roumain, comme chantait mon père, et que j'apprenais, et d'ailleurs que je chante à mon fils.
Là, tu peux t'essayer un peu, c'est...
Vine, vine, prime, vara. Bon.
Très bien.
Mais je chante donc... berceuse à mon fils. Et ce qui est intéressant, c'est que petite, je les ai apprises vraiment à l'oreille, à la phonétique. Et mon fils fait la même chose. Mon fils apprend phonétiquement les chansons roumaines et de cette façon-là, ça continue à voyager. Mais les histoires... mon père était un très grand conteur et bon, il était comédien, donc il était très... Mais il me racontait des histoires roumaines, il me chantait des chansons, il faisait vivre la Roumanie beaucoup de cette façon-là, chez nous. Mais sinon, mon premier voyage en Roumanie, j'avais 3 ans, et ce qui m'avait marqué énormément, c'est les membres de ma famille, donc ma tante, ma grand-mère, tout ça. Tout le monde, moi, je les connaissais très peu. Tout ce que je connaissais, c'était leur voix au téléphone. Je les avais jamais vus. Et tout le monde me touchait beaucoup. Il y avait vraiment un rapport à l'affection, au corps, donner des becs partout, partout, partout. Il y avait quelque chose de très tactile, de très physique.
Est-ce que les Roumains sont plus chaleureux, disons, que les Québécois?
Ils sont très sanguins. Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup plu en Roumanie. C'est le côté très latin. Il y a un côté très latin de parler fort, d'être intense tant dans la joie que dans la peine. Il y a une intensité émotive, quand même, j'ai trouvé. Un sens de la fête aussi. Et un sens... Ah! Et ça, ce que j'ai adoré, mais qui a été un apprentissage, c'est cette façon de recevoir de façon totale. Quand on est reçu en Roumanie, il n'y a pas de demi-mesure. Tu dis non, j'ai plus faim, mais non. Ça continue, et ça continue, et ça continue. Et cette abondance-là, ou en tout cas cette générosité qui paraît sans limite, qui est très étonnante, parce que on croise pas, ce genre de générosité-là dans beaucoup de cultures.
Pourquoi est-ce que c'est important pour toi et transmettre à ton fils son héritage ou ton héritage roumain?
Déjà parce que c'est une richesse, mais ça, c'est la raison peut-être culturelle. Oui, c'est une richesse de connaître son histoire. C'est une richesse aussi d'avoir des racines d'ailleurs. C'est une richesse d'être multiple, de ne pas être qu'une chose. Mais aussi parce que, comme je le disais tout à l'heure, moi, quand j'ai vraiment fouillé mon côté roumain, j'ai appris énormément de choses sur moi. Et même si pour mon fils, ça va être une expérience différente, parce que mon fils est finalement un quart roumain, reste que depuis qu'il est tout petit, il s'intéresse énormément à la Roumanie. Il y a quelque chose de fascinant aussi de savoir que justement, mon grand-papa roumain, il pose beaucoup de questions depuis toujours. Et moi, j'attendais qu'il soit assez grand pour se souvenir de la Roumanie, pour y aller. Donc là, on devait y aller cet été, parce que là, il est assez grand. Et là, on n'ira pas cet été. Mais l'été prochain, on devrait faire notre périple familial en Roumanie.
Ah ben, c'est super ça. Petite dernière question, est-ce que tu peux envoyer un message aux gens qui regardent cette discussion-là?
Un message
quelconque.
Oui. Oui, mais je reviendrai, je pense, sur ce dont on a parlé en début d'entrevue, sur la difficulté peut-être de percer dans plusieurs domaines quand on est immigrant, quand on change de pays et qu'on arrive dans un nouveau pays. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais mon père l'a vraiment vécu. Et moi, j'ai trouvé ça beau et très, très, très inspirant de voir mon père se dire, bon, ben, comment je fais pour atteindre mes rêves, mais justement en ayant un gros accent, en étant différent, en portant un nom qui a une sonorité différente. Donc, mon père n'a pas pu continuer à être comédien, mais il a pu continuer à vivre du théâtre en étant prof. Et ça, j'ai trouvé ça très inspirant. Et là, ça va être un message un peu qui t'aime. Mais comme m'avait dit une fois Xavier Dolan en entrevue, il faut croire en la force des rêves. Et c'est vrai. Et c'est particulièrement vrai, je trouve, quand... on change de pays et qu'on on essaie de se faire une place dans une culture qui n'était pas à la base la nôtre et qui devient la nôtre.
Catherine Pogonat, merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult.
Un plaisir.
Et à bientôt. On ne sait jamais. Hein?
Oui, à très bientôt.
Bye.
Hi everybody, listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro.
Am plecat din țară la o vârstă fragedă și pot să spun că dorul de casă mă macină. Muncesc într-o fabrică și mai vărs câte o lacrimă când mă gândesc la-i mei și la locul de baștină. Sunt motivat de bani, de asta am ajuns să plec, că am vise, am planuri mari și vreau să reușesc. Mai sunt oameni ca mine, boaice, și-au luat viața în piept și locuim grămadă acum într-un apartament. Să nu crezi că e ușor printre străini, Occidentul e frumos. frumos, dar și plin de venin. Ne mai distrăm seara când ne adunăm și gătim ceva tradițional și ciocnim un pahar de vin. Și atunci zic,
înapoi la mine acasă, unde Dunărea se varsă. Și ea mă dă departe și Dumnezeu iar acolo unde inima mă bate. Înapoi la mine acasă, unde Dunărea se varsă. Și ea mă dă departe și Dumnezeu iar acolo unde inima mă bate.
Am lăsat dus de destin, cu gândul că într-o bună zi acasă am să revin. Și am să contribui cu puțin, puțin, să facem ceva bun cu pământul cel moștenim. Și 10 ore, zi de zi, trei schimbul, frate, de-ai ști că trag din greu satul leu. Sunt motivat de copilul meu, când vine seara vorbim pe Skype, îmi zice mereu, tati mai stai, mi-e dor de tine și lui mami, hai acasă că ne descurcăm noi cu banii.
Unde Dunărea se varsă. Și ea mă dă departe și Dumnezeu iar acolo unde inima mă bate. Înapoi la mine acasă, unde Dunărea se varsă. Și ea mă dă departe și Dumnezeu iar acolo unde inima mă bate.
Unde inima mea bate.
Unde inima mea bate.
Unde inima mea bate. Unde inima mea bate.
Unde inima mea bate.
Ascultați emisiunea de radio Marcaro pe 90,3 FM CKUT.
Shaquille, Magic Juice, footballs in the house.
Deci am pierdut tot când am plecat. Nici soarele nu-i pe cer. Și n-am să mă mai trezesc ca să-ți pot zâmbi. Te pup, papa. Te pup, papa.
Seara o facem la de iar. Și că până dimineață toată lumea e sus pe par. Unii au luat-o un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac. Ca un poeniță, lasă-mă s-o fac. Mâine-ți cânt o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânt spas.
Boxele astea nu tac.
Rog vecinii să mă ierte că nu știu prea bine ce fac. Că băieții spre jos, iar fetele spre val. Toată lumea cu mâinile în aer. Băi, cred că așa e normal.
Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac. Ca un poeniță, lasă-mă s-o fac. Mâine-ți cânt o serenadă și te iau la val.
Sticla de palincă m-a făcut să-ți cânt fal.
La la la.
Papa.
ești la pierdut tot când ai plecat. E soarele, nu-i pe cer și n-am să mă mai trezesc ca să-ți pot zâmbi.
Te pup, papa.
Ești la pierdut tot când ai plecat. E soarele, nu-i pe cer și n-am să mă mai trezesc.
COVID-19. We must all continue to respect public health guidelines and follow self-isolation instructions. Self-isolate if you have symptoms. Self-isolate after testing. Self-isolate if the test is positive. Self-isolate when you return from a trip. And self-isolate when you've been in contact with someone who's tested positive. Self-isolation is important. Please, take it seriously. Learn more at quebec.ca/self-isolating. A message from the gouvernement du Québec.
Good evening. The time roundabout now on your dial should read 9 p.m. You're listening to Hotel the Blues here on 90.3 CKUT FM, broadcasting from a small wee little house nestled on the side of Montreal's Mont-Royal on unceded Mohawk territory. To get tonight's program started off, we turn to Houston Stokes and his number, You'll Be Sorry.